Christophe Augier, tous les jeudis matins sur France Culture jusqu'à 10h30, la vie et l'œuvre d'un grand nom de la littérature ou de la pensée. Ce matin, nous remontons le cours du temps et nous nous retrouvons en Grèce en 400 et quelques avant Jésus-Christ.
Je ne suis pas doué pour la philosophie, lui avouait quelqu'un. Et Diogène répondait: mais pourquoi donc vis-tu si le bien vivre ne te préoccupe pas plus? Une vie, une œuvre. On lui demandait qui est riche parmi les hommes. Celui qui se suffit à lui-même. Diogène ou la subversion.
Quelle est, demandait-on, la plus belle chose au monde? La liberté de langage, répondit-il.
Une émission de Jacqueline Kellen avec Marie-Odile Goulet-Cazé, Michel Onfray, Léon Spaquet. Depuis des années que je travaille sur les textes cyniques, jamais je ne suis restée indifférente.
Marie-Odile Goulet-Cazé.
Et même s'il ne faut pas, bien entendu, je ne viens pas vous voir avec une besace, un bâton, le tribone, et il ne faut pas être naïf, mais je crois quand même que Diogène nous dit aujourd'hui, il faut que vous vous lanciez un défi à vous-même. Il faut que l'homme se lance le défi d'être heureux dans un monde où finalement tout est menace, où si on est un peu lucide, on devra avoir peur. Et je crois que la situation, malheureusement, aujourd'hui, n'est guère plus brillante qu'à l'époque hellénistique. Et Diogène nous dit, passez par-dessus cette peur, assumez-la par un effort. C'est vrai que c'est un effort de volonté. Et c'est vrai que le cynisme, je crois, est une école de volonté. Et on peut trouver son volontarisme un peu exacerbé. Mais d'un autre côté, Diogène nous dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Et sa méthode ascétique, bon, bien entendu, que nous ne pouvons pas appliquer aujourd'hui, sauf peut-être, je ne sais pas, enfin peut-être que les hippies... il y a quelques années, il appliquait, mais bon, cette méthode qui consiste à coucher sur la dure, boire de l'eau, manger très frugalement, se vêtir de la façon la plus simple possible, cette méthode qui se voulait prophylactique, préventive, je crois, leur permettait vraiment d'assumer au jour le jour tous les coups que pouvait envoyer la fortune. Bon, nous, aujourd'hui, bien entendu, la situation est différente, mais je crois que si on arrive à préserver en soi un domaine qui est une sorte d'aptitude à nier toute adversité, à être capable d'affronter tout ce qui nous tombe dessus, eh bien, je crois que le message de Diogène est passé. Enfin, c'est cela qu'il voulait nous dire, quelles que soient les formules qu'aujourd'hui nous employons.
Il est étrange, disait Diogène, que l'on verse de l'huile dans la lampe pour y voir plus clair sur la table, tandis qu'on ne veut en rien dépenser ses forces à devenir plus sage d'esprit, de manière à bien discerner ce qu'il y a de meilleur pour l'existence.
L'Antiquité m'a permis de voir qu'on pouvait penser indépendamment du christianisme, non pas de manière post-chrétienne, mais pré-chrétienne. Donc je me suis intéressé aux grandes pensées, on dira d'avant le christianisme, enfin Platon et le platonisme, les stoïciens, etc.
Bon. Michel Onfray.
Et puis je me suis aperçu qu'il y avait plein de petits personnages intéressants, des marginaux chez lesquels la philosophie s'exprimait d'une manière aussi singulière, voire subversive. Et je crois que l'un des plus subversifs en la matière était Diogène. Donc je l'ai rencontré à partir de Diogène Laërce, enfin son homonyme, qui a écrit ses « Vies et sentences des philosophes illustres », un texte très très intéressant parce qu'il y mêle l'anecdote, le ragot, le bricolage, le petit mot, et puis l'analyse philosophique, et tout un tas de choses qui, moi, me semblent intéressantes pour penser un système, voir comment se constitue une pensée, et voir comment avance une série d'idées dans une époque donnée. Donc Diogène Laërce raconte un petit peu comment fonctionnait Diogène de Sinope, Hipparchia, Cratès et quelques autres, et puis j'ai découvert un univers entier à partir de Diogène, qui reste quand même, quoi qu'on dise, la figure emblématique, même si Cratès et Hipparchia nous enseignent aussi des choses. Hipparchia, une des rares femmes philosophes aussi de l'Antiquité. Diogène m'a intéressé parce qu'il m'a montré une position subversive et aussi une position pré-chrétienne, que je dirais même anti-chrétienne à l'occasion, enfin une position naturaliste qui permet de penser la philosophie de manière éminemment concrète. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans cette période sauvage où les gens, où les philosophes s'enferment dans leur tour d'ivoire, dans les universités ou dans leur langage, dans leur verbiage. Ils sont incompréhensibles, ils sont fumeux, ils sont extrêmement théoriques, travaillent sur des questions pointues, complètement inintéressantes, enfin des questions techniques qui permettent aux philosophes de se retrouver entre eux. J'ai trouvé une philosophie qui s'exprimait dans la rue et qui s'exprimait dans la vie quotidienne.
Il remarqua un jour un de ses proches qui s'entretenait avec des gens pervers. Il serait bien étrange, lui dit-il, que l'on choisisse avec soin les meilleurs compagnons de voyage quand on a l'intention de faire une traversée, et que l'on prenne par ailleurs, au hasard, ses compagnons d'existence quand on se décide à mener une vie honnête.
Le cynisme dérange. Bon, par principe, les gens n'aiment pas être dérangés. Il dérange parce qu'il a décidé de falsifier la monnaie. Il a donc décidé de remettre en cause les valeurs traditionnelles dans tous les domaines de l'activité humaine et de la pensée. Alors, ce qui était le plus grave, c'est qu'il a falsifié la monnaie dans le domaine de la philosophie elle-même. C'est-à-dire qu'il était subversif à l'égard des évidences que personne ne remet en cause dans le domaine philosophique. Par exemple, bon, la philosophie comme désir de savoir, la philosophie comme discipline au service de la cité, comme recherche métaphysique, enfin bon, des définitions de la philosophie que l'on peut dire platonicienne, Diogène en a fait table rase. La philosophie comme contemplation du cosmos, comme recherche scientifique, disons des conceptions philosophiques qui étaient celles d'Aristote, Diogène a dit non, ce n'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est une expérience existentielle. Le sage apprend à vivre. Et il a eu ce mot, moi je crois qu'on ne lui a jamais pardonné sur Platon, de quelle utilité est pour nous un philosophe qui fait de la philosophie depuis tant d'années et qui n'a dérangé personne? Alors vous comprenez que les philosophes de son époque, et je dirais les philosophes des époques ultérieures, préféraient considérer Diogène comme le marginal. Donc on l'admettait, on le tolérait, il était là, mais on ne voulait surtout pas se laisser déranger par les questions qu'il nous posait. Et alors tout d'un coup, je dirais ces dernières années, on s'est aperçu quand même que cette expérience existentielle, finalement, c'était peut-être ce que la philosophie pouvait nous apporter de mieux, parce qu'une philosophie qui n'apprend pas à vivre, je veux dire, moi, personnellement, enfin, je crois qu'il ne faut pas être naïf, il ne s'agit pas de dire rejetons la philosophie des idées, etc. Mais je crois que, quel que soit le domaine de la philosophie sur lequel on travaille, sur lequel on fait des recherches, si vraiment cela ne nous pose pas des questions et ne nous amène pas dans notre façon, je dirais, à nous de vivre, c'est inutile. Or, Diogène, il est là pour nous dire... Il faut renverser la vapeur, débarrassez-vous de toutes les conventions, débarrassez-vous de toutes ces valeurs traditionnelles que la société vous impose, tous ces conformismes, et soyez libres. Quand vous aurez réussi déjà à faire table rase de ces fausses valeurs, et quand vous aurez réussi à faire vous-même une expérience de la liberté, là vous pourrez commencer à philosopher au sens propre, à chercher cette sagesse que les philosophes nous promettent.
À celui qui prétendait que vivre est un mal, il répliqua, non pas vivre, mais mal vivre.
Arrivé à Athènes, Diogène s'attacha à Antisthène. Ce dernier le repoussa. Il ne voulait être suivi par personne. Mais l'assiduité de Diogène en vint à bout. Un jour, par exemple, Antisthène leva son bâton contre lui. Diogène lui dit en avançant la tête, « Cogne donc, tu ne trouveras pas de gourdin assez dur pour me chasser aussi longtemps que tu me donneras l'impression de tenir des propos sensés. » À partir de ce jour, Diogène devint son disciple et, en bon exilé, il se mit à rechercher la vie la plus simple. Diogène Laërce.
Antisthène passe pour le père de Diogène, d'un point de vue du cynisme, mais Antisthène est quelqu'un de beaucoup plus austère, de formé à la tradition du premier stoïcisme, enfin quelqu'un qui ne va pas aussi loin que Diogène. Diogène, pensez-vous, onaniste, pétomane et cannibale, en voilà un qu'on ne peut pas convier comme ça au moindre des banquets. Alors Diogène a quand même été le personnage qui a donné ses lettres de noblesse au cynisme, avec justement cette histoire du tonneau, qui n'est pas un tonneau, puisque le tonneau a été inventé par les Gaulois, mais qui était une grande amphore dans lesquels on déplaçait les huiles ou les vins dans des bateaux. Et donc l'amphore, le haut de toit de Mont-Soleil à Alexandre, enfin quelques clichés, quelques images d'Épinal qui font tout de même qu'on en a oublié malheureusement le contenu de la philosophie, parce qu'on se souvient d'un Diogène un peu rigolo comme ça, qui assène des coups de bâton, mais quand il assène des coups de bâton, il philosophe aussi, ce qu'on n'a pas souvent dit.
La nudité, disait-il, est préférable à la toge pourprée, et se coucher sur un sol nu, c'est le plus doux des grabats. Et comme preuve de ce qu'il avance, il apporte sa propre assurance, son imperturbabilité, sa liberté, et en outre, son petit corps trapu et resplendissant de santé. Épictète.
Alors, pourquoi cynique? Parce qu'il y a une récupération ou une perversion totale du véritable cynisme. Et quand on dit maintenant quelqu'un qui est cynique, en fait, c'est souvent l'antithèse même du cynisme originel.
Platon se réunissait avec ses amis à l'académie, Aristote au lycée, les stoïciens au portique, la stoa, les épicuriens au jardin. Et comme il y avait toujours des lieux, comme d'aucuns se réunissent au Flore ou au Demago, eh bien, les cyniques se sont dit, à l'époque où ils ne s'appelaient pas comme ça, on va se retrouver quelque part, nous, dans un endroit qui sera éminemment subversif, et ça a été le cimetière pour chiens, puisque le kinos en grec signifie chien, et le cimetière pour chiens était le lieu où il se retrouvait. C'est une hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est que le philosophe cynique a voulu faire du chien un emblème, un modèle philosophique, une figure philosophique en quelque sorte. Le chien, c'est celui qui mord, c'est celui qui aboie, c'est celui qui est errant, c'est celui qui copule sur la place publique sans souci du qu'en dira-t-on, évidemment. C'est une figure à imiter. Ça, c'est une autre hypothèse. Moi, j'avais émis l'hypothèse, mais enfin, elle est plutôt poétique qu'autre chose, que le chien, c'est aussi une constellation, et une constellation à partir de laquelle on peut, dans l'année, dire des mots extrêmement chauds et qui produisent de la folie chez quelques-uns. J'aime assez l'idée de folie, l'idée d'ivresse ou l'idée de bacchanal associée au cynisme de Diogène, mais voilà les raisons qui font qu'on a parlé de cyniques, donc les gens qui se sont comportés comme des chiens. Le cynisme philosophique est celui qui renvoie directement au texte, aux pensées, ou à Diogène, Antisthène et les autres. Donc une façon de se comporter qui est subversive, mais qui produit en même temps une positivité à l'égard des dieux, à l'égard de la matière, à l'égard de la morale, etc. Et ce cynisme-là a donné lieu à une perversion, une étrange perversion du terme, un petit peu comme les gens dont on dit qu'ils sont stoïques, ou de quelqu'un quand on dit qu'il est philosophe, ou enfin bon... ce genre de choses, ou qu'on aime d'amour platonique, il y a une étrange perversion, ce qui fait que je parle aujourd'hui de cynisme vulgaire, dans la mesure où aujourd'hui un cynique c'est quelqu'un qui n'a ni foi ni loi, ne reconnaît rien ni personne comme des valeurs, et est capable, d'un point de vue du, qu'on dira aussi machiavélien, pour reprendre une formulation philosophique, qui est capable de répondre à la question comment puis-je parvenir à mes fins, réponse, tous les moyens sont bons. Et le cynique est celui qui pense que tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins, cynique au sens vulgaire du terme. Et ce cynisme-là a besoin, je crois, d'un contre-pouvoir intellectuel qui serait un pouvoir cynique au sens philosophique du terme, une réactualisation de la pensée de Diogène.
Qu'as-tu donc fait, lui demandait-on, pour qu'on t'appelle le chien? Je caresse ceux qui me donnent quelque chose, j'aboie contre ceux qui ne me donnent rien, et je mords les mécréants.
Il était en train de déjeuner sur la place publique. Chien, criaient les badauds réunis autour de lui. C'est plutôt vous, les chiens, reprit-il, puisque vous m'entourez pendant que je mange.
Alors, pourquoi le chien? Bon, alors en deux mots, parce que le chien, il aboie. Or, le cynique, il se donne le droit d'aboyer haut et fort contre, justement, tous ceux qui l'énervent parce qu'ils sont trop bien pensants et parce qu'ils refusent de se mettre en cause. Donc, le cynique aboie. Le cynique est comme le chien parce que le chien sait reconnaître son ami il remue la queue, il sait reconnaître son ennemi, il le mord. Eh bien, le cynique de la même façon, quand il rencontre quelqu'un qui accepte de prendre le risque de philosopher, le cynique l'encourage, et au contraire, le cynique n'hésite pas à se moquer, et on sait à quel point leur sarcasme et leurs invectives étaient pas très agréables pour les gens qui les recevaient. Donc, comme le chien, il a un naturel apte à discerner, si vous voulez, l'ami de l'ennemi. Bon, comme le chien, il est capable de monter la garde. Alors, le cynique lui monte la garde devant les principes de la philosophie, les principes qui sont les siens, et il monte une garde très efficace. Bon. Enfin, le chien, eh bien, c'est celui qui ose tout faire en public. S'il a envie d'uriner, il urine. S'il a envie de manger, enfin, il ne s'occupe absolument pas des conventions. Bon, ben, Diogène, c'est pareil. Il mangeait sur la place du marché, il se masturbait sur la place du marché. Enfin, bon. Donc, il y a chez le chien une sorte d'attitude anticonventionnelle que le cynique revendiquait.
Je vois, déclarait-il, beaucoup de lutteurs et de coureurs, mais je ne vois personne s'efforcer de devenir parfait honnête homme. Stobé.
Alors cet idéal d'insoumission, on pourrait dire, d'indépendance, d'autonomie, ce n'est pas facilement reçu par les contemporains et de nos jours non plus. Alors quels étaient ses ennemis, si on peut dire, ou ses contradicteurs ?
Oh, ben évidemment, c'est des gens en place. Alors, on s'en moquait. On le voit, par exemple, dans plusieurs textes qui sont livrés après coup.
Léonce Paquette.
Il se présente aux Jeux Olympiques, à Corinthe, à Athènes, bon, à Delphes. Et puis, il leur dit carrément, par exemple, écoutez, moi, j'ai... Ah, il y a la fameuse scène que tout le monde connaît, hein. On le voit se promener à Athènes avec une lampe allumée en plein jour. Puis, il dit, ben voilà... Les gens disent, qu'est-ce qu'il est fou, quoi. Dis non, je ne suis pas fou. Moi, je sais. Je cherche un homme, mais un vrai. Et je n'en ai pas encore trouvé. Même chose, alors donc, quand il va au jeu, il se présente, il dit, moi, je viens, oui, participer au jeu. Il dit, il est fou, quoi. Il vient comme ça, lui, ce bonhomme, ce clochard. Ah ben oui, parce qu'ici, il dit, vous pensez que ce sont des héros, des champions. Mais non, je vais vous montrer, hein, le vrai champion. Moi, je travaille pour le devenir un vrai champion olympique. Mais du véritable combat, pas celui que vous pensez. Il ne s'agit pas de courir dans le stade, hein, pour gagner. Le vrai combat, c'est cette ascèse, cet exercice sur moi-même pour me purger de tous ces faux désirs, ces faux besoins, l'opinion des gens, faire rire de moi et ça ne me dérange pas, bon, me faire jeter des os comme un chien, puisqu'on m'appelle le chien, le moustique vient de là. Alors, il a joué beaucoup là-dessus aussi. Il dit, justement, vous pensez, vous me dites, je suis un chien, vous me jetez des os, bon, il reste de l'eau à la figure. Mais, oui, je suis un chien. Kuon kunos, un vrai cynique. Pourquoi ? Parce que le chien, quel est le propre du chien ? Remarquez l'exemple qu'il prend aux animaux. Hein. Le propre du chien, ben, c'est l'ami de l'homme, on dit, mais c'est aussi celui qui peut mordre. Mais je ne mords pas n'importe qui, je mords mes amis. Ah, bizarre quand même. Ben oui, parce que pour un ennemi, mon Dieu, c'est pas intéressant, parce que je suis pas sûr qu'il va répondre. Tandis que l'ami que je mords, il va dire, mais qu'est-ce qui lui prend, il me mord. Ben justement, c'est pour l'éveiller. Encore l'influence de Socrate. C'est un éveilleur de conscience, Diogène.
Quelqu'un lui reprochait de fréquenter des endroits infâmes. Il eut cette réponse. Le soleil pénètre bien dans les latrines sans en être souillé.
Alors, ce grand libérateur, on peut l'appeler comme ça, et les autres cyniques, appréciaient particulièrement Héraclès et Ulysse.
Là. Ah oui, bah, justement, alors parmi leurs modèles, parce que chaque système a pratiquement ses modèles, c'est tout à fait grec, ça, hein. Alors c'est l'idée d'éducation, de pédagogie, on n'instruit pas sans... donner un modèle à suivre ou à regarder, en tout cas. Alors, bien souvent, c'est le maître, et puis les disciples, alors, regardent le maître agir. Bon, alors, Diogène ne se pose pas lui-même en modèle, ne s'est jamais posé en modèle, mais il choisit, comme tous les autres cyniques le feront, bon, il y a l'animal, bien souvent. Alors, il va prendre le chien, la souris, qui se nourrit de peu, bon, il reste la belette, bon, mais aussi deux grands héros de la mythologie. Pas... Il n'a pas vraiment de goût pour la mythologie, mais ces deux grands héros ont fait des choses, selon la légende, alors qui peut vraiment donner un sens à cette ascèse cynique. Héraclès, à qui la mythologie prête ce combat, hein, les 12 travaux d'Hercule ou d'Héraclès. C'est des épreuves, il fallait, bon, par exemple, purger ou purifier les fameuses écuries du roi Augias, hein, qui avait 30 000 bœufs et qui n'avait jamais été nettoyé durant 30 ans. Alors, travail énorme, évidemment, travail répugnant. À tout ça, l'image pour Diogène, c'est intéressant, voyez-vous, un énorme travail, apparemment inutile, idiot, imbécile, quoi, pour un roi, et puis répugnant. Alors, Héraclès est supposé avoir détourné le fleuve Alphée pour, bon, nettoyer les écuries en question. Tout ceci pour avoir la main de la fille du roi Augias. Bon, alors Diogène laisse tomber cet élément. Et puis, ce qui l'intéresse, justement, ce sont ces grands travaux de purgation, de purification, d'ascèse, de discipline personnelle. Pour Ulysse, c'est encore plus frappant, parce que Ulysse n'a pas ce côté mythologique ou mythique hein, qu'on trouve chez Héraclès. C'est un personnage humain. Et alors, Diogène trouve chez lui des traits, une histoire qui est intéressante. C'est celui qui s'exile. Là, le thème de l'exil qui va reparaître chez beaucoup de cyniques. Alors, il est exilé durant 10 ans pour aller faire la guerre de Troie. Il est rusé, le Ulysse en question. Il revient après beaucoup de voyages difficiles, beaucoup d'épreuves, de naufrages. Et il revient inconnu. Il revient en pauvre, en clochard, non reconnu par les siens. Et puis alors...
Il est reconnu par son chien.
Il est reconnu par son chien, voilà. Et le chien d'Ulysse s'appelle Argos, comme par hasard. Et les cyniques se réunissaient, alors le nom vient de là, en fait, au point de départ. Alors Antisthène réunissait ses disciples, alors au quartier de Cynosargos, Cynosargos, qui veut dire, en fait, on peut traduire, le chien agile ou à l'enseigne du bon chien. Alors, le, tout ça ensemble, mettez ça, là, alors le chien, Argos, le chien d'Ulysse, bon, le chien... Tout ça fait vraiment le bonheur, hein, une image complète que Diogène a en tête. Hein, bon, le chien qui mord, le chien qu'on méprise, mais c'est en même temps un chien vraiment qui rappelle Ulysse. Et Ulysse qui nettoie, lui aussi, son palais des prétendants, donc de tous les faux désirs, les faux besoins pour retrouver sa Pénélope qui l'attendait.
À propos de Diogène de Sinope, on raconte ce qui suit. Il en était encore à ses débuts dans la philosophie. Or, à Athènes, on faisait fête. Repas magnifiques, spectacles, réunions d'amis où l'on s'adonnait aux parties de plaisir et aux fêtes nocturnes. Diogène, au contraire, s'était pelotonné comme pour dormir dans un coin du marché. Il s'y laissait aller à des pensées qui le broyaient et le retournaient fortement. Sans aucune contrainte, pensait-il. Il était parvenu à une vie difficile, étrangère aux autres, et il s'y était fixé tout seul, en se privant de tous les biens. Là-dessus, il vit, dit-on, une souris ramper vers lui et se tourner vers les miettes tombées de sa galette. Son esprit se redressa aussitôt, et se réprimandant, il s'adressa à la seconde suivante. « Que dis-tu, Diogène ? Voilà une souris qui se réjouit de tes restes ?» Et s'en nourrit. Toi, au contraire, l'âme bien-née, tu te plains et te lamentes de ne pouvoir t'enivrer là-bas, étendu sur de moelleux tapis brodés.
Il y a un joli bestiaire chez Diogène parce que, d'abord, le principe philosophique cynique, c'est de suivre la nature. La nature ne peut enseigner que deux belles et bonnes choses. C'est tout du moins ce qu'enseigne les cyniques. Donc, il suffit de voir comment se comportent les animaux pour imaginer qu'ils nous donneront des leçons de philosophie. Par exemple, un jour que Diogène est dans un coin complètement dépouillé, il n'a plus qu'un vêtement qui lui permet, quand on le redouble, de vivre aussi bien l'été que l'hiver, de s'endormir le soir avec ça. Il grappille deux ou trois petites choses et puis il a une écuelle dans la poche pour récupérer un petit peu de boisson de temps en temps quand il passe devant une fontaine. Et puis il découvre un jour qu'une souris est en train de grignoter des miettes d'un repas. Il s'aperçoit que lui, il fait bombance en mangeant des choses qui laissent encore des miettes et qu'on devrait prendre leçon sur la souris ou sur le rongeur et ne se nourrir que d'immondices, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a encore comme animaux? Bon, le chien, évidemment. Il y a aussi la grenouille. Diogène voit un jour des grenouilles et se dit, mais elles sont nues, elles sont dans l'eau, elles n'ont pas froid, ni chaud, ni quoi que ce soit. La nudité pourrait être aussi une vertu. Et à chaque fois, on s'aperçoit que l'animal conduit à des vertus. Par exemple, la frugalité, dans le premier exemple du rongeur. Et puis, un exemple pour la nudité. Par exemple, un éloge de la nudité pour les grenouilles. Je trouve que ce sont des voies d'accès à la sagesse qui sont et plaisantes et sérieuses en même temps.
Lorsqu'ils voyaient à leur occupation des pilotes, des médecins ou des philosophes, ils jugeaient que l'homme est le plus intelligent des animaux. Quand, par ailleurs, ils s'arrêtaient aux interprètes de songes, aux devins et à tous leurs assistants, ou à tous les gens gonflés de gloire et de richesse, ils ne trouvaient rien de plus idiot qu'un homme. Ils ne cessaient pas de dire que pour bien vivre, il fallait disposer d'une raison droite, ou d'une corde pour se pendre.
Pour nous qui sommes de la patrie de Descartes, Pascal, toute la dignité de l'homme consiste en la pensée. Il paraît que c'est notre supériorité qui nous fait faire la guerre, qui nous fait torturer, etc. Bon. Et Diogène a l'air de dire que l'homme n'est pas supérieur à l'animal.
Diogène, c'est l'anti-Prométhée. C'est-à-dire qu'il nous promettait avait apporté aux hommes le feu, il avait apporté aux hommes le moyen, grâce finalement à leur intelligence, de faire des grandes choses, enfin qu'il jugeait grandes, et Diogène dit non. Il faut revenir justement à un état de nature, et même si Diogène est le prophète de la raison, il nous invite tout de même à nous méfier de notre intelligence, qui justement est capable du meilleur comme du pire. Et il me semble que... Il faut replacer cette référence à l'animal dans le contexte de l'époque où, rappelons-nous, que les sophistes étaient très efficaces. Or, le cynisme vient nous apporter, je dirais, le message de l'antisophistique. Là où les sophistes voyaient un progrès de l'homme, depuis les origines, donc jusqu'à l'époque où il se trouvait, Diogène, au contraire, voit une régression. Et il me semble qu'il y a dans le cynisme quelque chose qui heurte, et c'est peut-être pour cela qu'on continue même encore à le refuser, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie paradoxale. Nous, on a coutume de voir l'animal en bas de l'échelle, l'homme, et ensuite la divinité. Le cynique dit non, l'homme il est en bas, ensuite il y a l'animal qui a très peu de besoins, et en haut il y a la divinité qui n'en a aucun. Alors, ce message paradoxal ne pouvait que choquer, parce que vous disiez, nous sommes les héritiers de Descartes, de Pascal, mais n'oublions pas que Socrate lui-même considérait l'intelligence humaine comme une supériorité par rapport à l'animal. Si on relit les mémorables de Xénophon, on trouve cette idée. Alors, les Athéniens de l'époque devaient être absolument choqués de voir justement que l'animal était considéré par Diogène comme supérieur à l'homme.
Il observait un jour un jeune homme qui se vantait de la magnificence de son vêtement. Ce garçon, dit-il, ne va-t-il pas cesser de mettre à son compte les mérites du mouton ?
Diogène a écrit, d'après les témoignages que nous avons, on sait qu'il a écrit, mais il ne nous reste rien du tout de ses traités, de ses
écrits. Il nous reste des fragments qui sont cités par Cicéron, Épictète, Sénèque, Stobée particulièrement. Bon, alors, Il y a des comédies qu'il a écrites, des tragédies, bon, mais il ne reste que... Et il y a des lettres qui lui sont attribuées, mais on doute vraiment que ce soit des lettres authentiques.
Alors, on va parler de ce... Est-ce qu'on peut dire clochard, enfin, avant la lettre, ou de ce philosophe non-conformiste?
Hippie avant la lettre.
C'est hippie avant la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il... C'est toujours une démarche, enfin, déjà, une apparence de contestation, en effet, comme vous l'avez dit, et tout est fait pour dérouter les gens, pour aussi en appeler à leur propre remise en question. Alors, déjà, il est vêtu de façon... Il a une apparence quand même un peu étrange, qui peut choquer l'Athénien de son siècle.
Premièrement, ce qui est étonnant, c'est qu'il en a contre les systèmes en place. Alors, le grand système, c'est celui de l'Académie d'Athènes avec Platon, mais le Platon en question, lui-même, est contestataire. On a souvent oublié ça. C'est lui qui a défendu, par exemple, par écrit, un courant de pensée, un courant féministe qui existait, qui était défendu par l'élite d'Athènes. Alors, c'est Platon qui écrit que l'homme et la femme sont égaux. Endroit. C'est Platon qui, dans une de ses dernières œuvres politiques, s'appelle « Le politique », alors écrit que la loi, c'est pas l'idéal, c'est un pis-aller. Le véritable gouvernement, c'est le gouvernement de l'esprit. Mais il sait bien que c'est un idéal qui ne se réalisera jamais. Bon, la démocratie, pour lui, Platon, ce n'est pas le meilleur régime, puisque c'est le gouvernement de la masse, une masse qui souvent est ignorante et qui vote sans savoir. Alors déjà, donc, on trouve ça chez Platon, et ces idées-là se retrouvent, étonnamment, chez Diogène. Alors, c'est une contestation, par exemple, contre tout ce qu'on peut appeler culture. Culture au sens large, tout ce qui est le produit de l'être humain. Alors,
parce que c'est un artifice.
La religion traditionnelle, pour lui, justement, elle n'est faite souvent que de superstitions, de mythologie, bien sûr, d'histoire ou d'historiette. Les régimes politiques, alors il est aussi virulent que Platon l'aurait été pour certains régimes, en tout cas lui, tout régime politique, puisque on se fait, entre guillemets, mettre en boîte dans un régime politique. Alors, il est contre les régimes institués. Et c'est pour ça que lui sera celui qui lancera l'idée de citoyen du monde. Et il livrera ce message-là aux stoïciens qui viendront après lui et qui l'écriront, eux autres. L'être humain, hein, pour être vraiment libre, n'est pas citoyen d'un État en particulier, mais citoyen du monde. Je ne suis attaché par aucun lien politique. Il conteste les conventions sociales et justement la façon de se vêtir, la façon de manger. Alors se vêtir, ben, évidemment, il va imposer un costume qui sera... reconnaissable chez tous les différents cyniques. Alors, ce qu'on appelle le tribone, c'est-à-dire cette espèce de manteau de laine rude dans lequel il s'entourait pour dormir. Ensuite, pour la nourriture, c'est la même chose. Il va même jusqu'à manger de la chair crue. Il dit, pourquoi pas? Alors, vous avez peut-être lu, justement, le petit texte qui dit, ben écoutez, si les animaux en font autant, pourquoi pas nous? Qu'est-ce que c'est une question de goût? Est-ce que la chair cuite est meilleure? Non, le fait de passer au feu, c'est pas ça qui va la rendre... toutes ces conventions sociales, donc. Et, bon, comme je dis, vêtements, nourriture, renommée, gloire, alors tout ça, pour lui, c'est vraiment de la fumée.
Également, donc, la famille, le mariage...
C'est ça. Alors, enfin, contestation contre la morale traditionnelle, qui est axée, chez Platon, sur la théorie du bonheur. Le démonisme qu'on trouvera aussi chez Aristote, ou l'intellectualisme. Alors, ce sont les meilleurs, au point de vue esprit, qui doivent gouverner, c'est eux qui doivent indiquer aux autres les critères sur lesquels il faut penser. Alors, Diogène est contre ça aussi. Même si sa morale, quand même, est l'ensemble de, si on peut appeler son système, s'il est contre les systèmes, peut se regrouper autour d'une idée, quand même. La nature est souveraine. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par nature? C'est-à-dire... Le bonheur, c'est quoi? Puisque le mot est là, tout le monde cherche le bonheur. Ben, pour lui, c'est ce qui va... Le mot grec est là, l'apathie. C'est-à-dire, non pas l'absence de sentiments, mais il y a un autre mot aussi qu'ils vont trouver, l'imperturbabilité ou l'ataraxie. Ne jamais être troublé par aucun problème, par aucune opinion, par aucune crainte. Alors déjà, vous avez en germe, et c'est Diogène qui l'a là, le stoïcisme, l'épicurisme. C'est pas du tout par hasard que c'est le disciple de Diogène qui va être le maître à penser de Zénon le stoïcien. Et dans le même temps que Zénon fondera son école, vers 310, Épicure en même temps aussi cherchera alors à répondre au même problème du bonheur, mais d'une façon différente, mais avec le même mot aussi. Le bonheur, c'est l'absence de troubles. Donc, c'est un idéal individuel, personnel, que chacun peut vraiment construire. C'est pas une élite qui vous dit comment devenir heureux, si chacun peut trouver par soi-même. Alors au fond, on s'aperçoit que Diogène est disciple de Socrate encore là, de loin. Le mot-clé, c'est se connaître soi-même d'abord, connaître sa propre nature, quels sont mes besoins. Mais alors, là aussi, on voit l'épicurisme qui s'annonce tranquillement. Connaître mes besoins, c'est-à-dire connaître mes véritables besoins. Donc, éliminer, purger, se purger de tous les faux besoins, les faux désirs. Ça sera ça aussi que fera Épicure, d'une autre façon. Et enfin, ayant fait cela, on arrive à une autonomie. Mais là, justement, voyez-vous, le mot lui-même dit très bien, je pense, résume très bien sa pensée, c'est être sa propre loi. Autonomos. Je suis ma loi à moi. Donc, j'ai pas besoin d'une loi créé par les êtres humains. Donc, je n'ai pas à me confiner à un régime établi qui me dit quoi faire, quoi ne pas faire. Je peux le trouver moi-même. C'est pas par hasard que Diogène était fils de banquier qui avait joué un peu sur la monnaie. Alors, il avait contrefait la monnaie. Et puis, alors, il paraît que Diogène, bon, il dit, s'est inspiré de cela. Pour dire, ben voilà, mon métier, c'est un peu le même. Un peu comme mon père, qui changeait le caractère de la monnaie. Qui changeait la monnaie. Et le mot grec est intéressant, c'est parakarakten. Karakten qui se rapproche de caractère, c'est la frappe de la monnaie, alors on la change, on la contrefait. Il dit, je fais la même chose. Or, la monnaie en grec a un mot qui se rapproche tout à fait, c'est nomisma. Qui se rapproche de nomos. Alors, le numismatique, justement, le numéraire. Bon, alors, l'argent puis la loi. Alors, je change continuellement. Je contrefais, selon ce que vous pensez, je contrefais continuellement la monnaie traditionnelle. Ou la loi, ou la convention, la coutume. Je m'en vais toujours à reculons, il dira. Vous autres, vous en allez comme ça, moi je fais l'inverse. En tout. Bon. Et c'est comme ça que j'arrive, je prétends arriver, ou je veux que vous arriviez, vous autres, à l'autonomie, que vous vous conduisiez vous-même.
Certains le tournaient en ridicule parce qu'il déambulait à reculons sous un portique. Diogène leur répliqua, « N'avez-vous pas honte de me reprocher d'aller à reculons en marchant, vous qui parcourez à reculons le chemin même de votre vie ?» Stobé. Quelqu'un fit cette question à Platon. Quelle sorte d'homme te semble être Diogène ?
Socrate devenu fou, répondit-il.
Le philosophe avec lequel il s'entendait le moins était vraiment Platon. Manifestement, ces deux-là ne se supportaient pas, et quand ils se rencontraient, ils faisaient tout pour se lancer des piques les plus venimeuses possibles. Alors Platon, ça, c'est connu, a traité Diogène de Socrate devenu fou. Et Diogène a passé son temps à fustiger l'orgueil de Platon. Quand, par exemple, un jour, il est entré dans la maison de Platon, il y avait des beaux tapis, il n'a pas pu s'empêcher de dire « je foule aux pieds l'orgueil de Platon ». Enfin bon, donc vraiment, je crois que Platon a été l'adversaire numéro un à l'époque. Et les autres écoles ne les aimaient pas non plus. Je crois que les épicuriens, plus tard, donc un peu plus tard, ne les aimeront pas. Alors, il y a tout de même les stoïciens. Alors là, les stoïciens, c'est ambivalent. C'est-à-dire, je crois que le fondateur du stoïcisme, Zénon de Citium, avait beaucoup d'admiration et de respect pour son maître, Cratès. Il adhérait aux grands principes cyniques, mais Ce qu'il ne supportait pas, et on le comprend fort bien, c'est l'impudence des cyniques. Zénon devait être un homme, je dirais, discret, qui, quand on lui demandait, par exemple, de traîner un hareng à travers la place, ben, le pauvre Zénon ne se sentait pas très à l'aise. Bon. Alors, il y a donc une influence du cynisme sur le stoïcisme au niveau des principes, mais par la suite, certains stoïciens se sont sentis vraiment très, très gênés, notamment à l'égard d'un ouvrage de Diogène, l'ouvrage le scandale, la Politéia, c'est-à-dire la République. Diogène, effectivement, écrit un ouvrage, et j'en relisais encore hier quelques phrases, je me suis dit que pour l'époque, ce devait être absolument scandaleux, c'est-à-dire qu'on, non seulement on renversait toutes les valeurs, mais on prônait la communauté des femmes, la communauté des enfants, faire l'amour en public, supprimer complètement les armes, alors dans une cité antique, supprimer la monnaie, la remplacer par des osselets, et j'ai été très étonnée de voir la place que le cynisme, enfin que Diogène, dans cet ouvrage, accordait aux femmes. Car, bon, il faut tout de même se rappeler que les femmes en Grèce, à l'époque, bon, on ne peut pas dire qu'elles avaient un rôle très important dans la vie sociale et encore moins dans la vie politique. On sait que chez les cyniques, il y avait une femme, Hipparchia, et apparemment une maîtresse-femme qui, quand elle avait quelque chose à dire, le disait. Donc c'était la femme de Cratès. On sait, parce que bien entendu, comme c'était scandaleux, c'est le genre d'anecdote qu'on rapporte le plus souvent, qu'Hipparchia faisait l'amour en public avec Cratès. On sait qu'un jour qu'elle a rencontré un autre philosophe qui s'appelait Théodore Laté et qui lui a reproché d'oser se mêler de philosophie, elle l'a rembarré de verte façon à tel point que le pauvre Théodore n'a plus rien dit. Et dans la Politéia de Diogène, justement, on voit que les femmes sont vraiment mises en avant. On dit, par exemple, les femmes peuvent faire l'amour avec qui elles veulent, elles peuvent choisir qui elles veulent, laisser tomber leur mari si les maris ne conviennent pas, enfin, mais des idées qui, aujourd'hui encore, mais nous, vraiment, ont dû complètement perturber, je dirais, le milieu, enfin, dans lequel elles sont nées. Alors, cette Politéia a ennuyé beaucoup les stoïciens, parce que Zénon, dont on parlait tout à l'heure, a lui aussi écrit une Politéia. Et alors, cette Politéia était manifestement, d'après ce qu'on sait, influencée par celle de Diogène. Alors voilà donc les stoïciens postérieurs aux prises avec un héritage bien embarrassant. Une Politéia de Diogène, donc avec des idées très scandaleuses, dont nous avons une partie du contenu. Une Politéia de Zénon, dont nous ne savons plus grand-chose, mais tout de même qu'elle reprenait certaines idées de la Politéia de Diogène. Alors les stoïciens n'ont rien trouvé de mieux, du moins certains stoïciens, que de dire, très bien, Diogène n'a pas écrit de Politéia, Zénon non plus, tout ça, ce sont des histoires. D'autres ont dit, oh, c'était une œuvre de jeunesse. Enfin, ils ont trouvé toutes sortes d'arguments pour supprimer cet héritage embarrassant. Alors qu'en fait, Zénon l'avait assumé, cet héritage cynique.
Il est des hommes qui sont à l'abri de tout désir, qui peuvent à peine être atteints par les besoins de l'humanité. Je dois nécessairement être vaincu par Diogène qui marche nu au milieu des trésors de la Macédoine et foule aux pieds les richesses des rois. Ah, certes, alors, à ses propres yeux et à ceux des hommes auxquels un nuage ne voilait pas la vérité, ne paraissait-il pas bien au-dessus de celui qui faisait tout ployer devant lui? Il était plus puissant, plus riche qu'Alexandre, alors maître du monde, car il pouvait refuser beaucoup plus que le roi ne pouvait donner. Sénèque.
C'est un solitaire, le cynique, c'est un personnage solitaire, complètement opposé à toutes les formes grégaires, qui n'aime pas les troupeaux, qui se défie des troupeaux de panurges et des moutons, et qui souhaite n'exister que comme une singularité. C'est quelqu'un qui vit le solipsisme aussi, qui sait que nous vivons seuls, nous mourons seuls, nous jouissons, nous souffrons, etc. Enfin, que toute la vie est une grande solitude à trimballer dans une histoire, dans une société, dans un temps, et qu'il faut faire avec, limité par ce sac de peau, limité dans le temps et dans l'espace, avec les contingences qui sont celles-là. Donc il y a une grande lucidité, en même temps qu'un grand désespoir, dans cette façon d'imaginer que le philosophe doit pouvoir fonctionner comme une conscience solitaire, avec ses instruments, qui sont les instruments de l'autonomie, enfin l'instrument le bâton, qui est en même temps le signe de la sagesse, mais en même temps la possibilité d'éloigner ses ennemis, le solipsiste étant celui qui sait qu'on ne peut contracter que de fausses relations. quand Diogène semble fasciné par la philosophie d'Antisthène et qu'il s'en vient voir Antisthène en lui disant « Sois mon maître », Antisthène commence par lui donner deux ou trois coups de bâton. Et Diogène dit « C'est fabuleux, voilà le maître qu'il me faut ». Et l'autre de dire « Bah oui, effectivement, si c'est ce qu'il dit, il a bien raison, allons-y ». Donc il y a quelques objets qui symbolisent l'aspect éminemment hautain, solitaire, on pourrait même dire solaire, pour reprendre une expression nietzschéenne, du cynique qui est capable, par exemple, de demander comme rite initiatique. Aujourd'hui, on demande de courber les chines dans les universités, on demande de faire acte d'allégeance dans les termes, dans les formes et dans les... Enfin, les soutenances de thèse permettent de savoir comment ces choses-là fonctionnent. Le geste qui permet l'acte d'allégeance, qui permet de savoir quand on peut être véritablement un cynique, c'est de trimballer un hareng sort derrière une ficelle ou un fromage bien fait pour montrer qu'on est capable de braver le jugement d'autrui, qu'on est capable de se moquer du jugement d'autrui parce qu'autrui n'existe pas, que le jugement d'autrui vaut pour moins que les miettes de la souris dont nous parlions tout à l'heure.
Les hommes, disait Diogène, se procurent ce qu'il faut pour vivre, mais pas ce qu'il faut pour bien vivre. Stobé.
Alors si on en reste à son comportement qui est exemplaire, insoumis, provoquant, choquant, etc., qu'est-ce qui pouvait dérouter ou renverser les valeurs ?
L'idée qu'il était à part, qu'il était en marge, enfin une exception comme aurait dit Nietzsche, en parlant de ses théories des exceptions, c'est-à-dire un personnage qui se comporte autrement que comme l'Athénien moyen, c'est-à-dire que là où l'Athénien rentre chez lui pour déjeuner ou dîner, dans la mesure où il se cache dans l'alcôve ou se réfugie dans l'alcôve pour sa sexualité, eh bien il a une pratique athénienne classique et type. Diogène pense qu'après tout, on doit pouvoir manger quand on a faim, boire quand on a soif et copuler quand le désir sexuel est là, et puis ne pas copuler si à l'occasion le partenaire fait défaut, et donc se masturber en pensant que c'est aussi simple de réduire la question du désir qu'il est simple de réduire la question du désir alimentaire en prélevant une figue sur un figuier, ou de la question du désir de soif en allant boire à la fontaine. Donc il est asocial parce qu'il simplifie la vie, parce qu'il montre aussi que nombre de nos conventions sont factices, qu'elles sont inutiles et qu'elles ne servent qu'à structurer un social dont il n'est pas nécessaire de faire l'éloge en permanence. Il y a un comportement très asocial chez Diogène qui pense qu'on doit pouvoir promouvoir une grande simplicité, une grande frugalité, et que les conventions doivent disparaître au profit d'un hédonisme. Enfin, ça, c'est ma thèse. On a très souvent considéré que les cyniques étaient des ascètes, etc. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a un hédonisme cynique qui consiste à dire, si le désir se manifeste, il faut savoir le satisfaire, et quand il est satisfait, passer à autre chose.
Un chauve l'injuriait. « Je ne vais pas être insolent envers toi, reprit Diogène, mais je félicite tes cheveux d'avoir abandonné une sale tête. »
On demandait à Diogène quel était le temps propice pour se marier. « Pour un jeune homme, dit-il, c'est trop tôt. Pour un vieillard, trop tard. »
Mais la provocation est certainement le moyen pédagogique le plus efficace qu'a trouvé Diogène. Car elle a, enfin, pour fonction de réveiller l'autre de sa léthargie. C'est-à-dire, si vous provoquez, bien entendu, vous pouvez le faire uniquement pour choquer. Donc, c'est choquer pour choquer, c'est négatif, c'est un peu le cynisme au sens moderne. Bon, ce n'était absolument pas, me semble-t-il, la perspective de Diogène. Lui, il voulait choquer parce qu'en réveillant l'autre, il l'amenait à se poser des questions. La provocation dérange et la provocation... contraint à se poser la question du fondement de nos attitudes. Alors, quand Diogène se masturbe en public, quand Cratès fait l'amour avec Hipparchia en public, quand il mendie à la porte des temples, quand il traîne un hareng, bien entendu, à un premier niveau, ça peut paraître complètement dérisoire, et on se dit, mais enfin, que font ces fous ? Bon, à un second niveau, je crois que cela nous amène à nous dire, mais quel est le fondement de nos conventions ? Quel est le fondement de ce consensus social que nous avons tous et qui nous amène justement à ne pas poser en public certains actes ? Et là, on arrive à ce que veut Diogène. Et alors là, je me permettrai d'ajouter une dernière idée, c'est que les cyniques, qui pourraient apparaître comme des misanthropes, Ça, je crois que c'est important, mais en fait, ne le sont pas. Ils auraient pu se réfugier dans une sorte de, disons, de misanthropie assez négative, en se disant, après tout, laissons ces pauvres hommes qui sont des fous, laissons-les de côté, et nous menons notre vie de sage. Eh bien, pas du tout. Diogène et Cratès, on les trouve là où la foule se presse. On les trouve là où il y a du monde à guérir. Hein. On peut dire qu'ils sont comme des médecins des âmes qui se poste aux bons endroits, là où les gens arrivent aux Jeux olympiques, aux Jeux sismiques, Diogène est là, Cratès est là, et ils invectivent, ils essaient de réveiller. Alors je crois qu'il y a dans le cynisme cette dimension que j'irais même jusqu'à appeler de l'altruisme.
Quelqu'un va lui dire, un tel dit du mal de toi. Diogène répondit, n'en sois pas étonné, il n'a jamais appris à bien parler. Attribue aussi à Alexandre le mot suivant. Si je n'avais été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène.
Diogène dit du pouvoir qu'il faut se comporter devant lui comme devant un feu, ni trop près parce qu'on s'y brûle, ni trop loin parce qu'on a froid. Donc le pouvoir, ça suppose donc le contraire d'un désinvestissement total et le contraire d'un investissement total aussi. En tant que libertaire, il sait que le pouvoir corrompt, Alain disait le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Je pense qu'effectivement c'est une vérité qu'on pratique quand on a quelque pouvoir que ce soit. Donc quand on est philosophe et qu'on devient roi, on reste roi et puis on oublie qu'on était philosophe. Ou alors si on reste philosophe, on cesse d'être roi à l'instant et on déménage le plus tôt possible. Ça c'est pour éviter la question de la proximité absolue du pouvoir. L'autre question, l'idée qu'un philosophe pourrait être déconnecté du réel et à ce point en dehors du monde, qu'il devrait laisser ça aux autres et que la politique devrait ne pas intéresser, qu'on devrait s'occuper de morale, de vertu, de pratique, de vie quotidienne ou je ne sais quoi, mais sans avoir aucun souci de la vie politique, c'est-à-dire de la citoyenneté, ça c'est aussi une deuxième erreur dans le sens de Diogène. Donc il faudrait promouvoir quelque chose comme une mesure, ce qui n'est pas la logique quand même qu'on attend des cyniques, l'idée d'une mesure, mais la mesure étant elle-même libertaire. C'est-à-dire qu'il y a une petite anecdote qui permet de savoir un petit peu ce que sont les pensées de Diogène d'un point de vue politique. On lui demandait à une époque quel était le meilleur des métaux, et il a répondu le métal dans lequel est fondu le buste d'un personnage qui était un tyrannicide. Et l'idée qu'on puisse faire l'éloge d'un personnage qui avait tué le tyran suppose que donc le philosophe devrait s'engager d'un point de vue de la philosophie politique ou du comportement politique, devrait s'engager du côté de la liberté, devrait lutter contre les gens qui confisquent le pouvoir pour eux-mêmes. Il voit plutôt la politique au service du citoyen que le citoyen au service de la politique. Et c'est plutôt en ça que la richesse cynique réside, que Diogène est finalement un personnage intéressant et moderne.
Le soleil au Crânéon, survint Alexandre qui lui dit en se tenant devant lui, « Demande-moi ce que tu veux. »« Arrête de me faire de l'ombre, » répliqua Diogène.
« Qu'est-ce qu'on découvre là ? Ben mon Dieu, c'est cette facilité, cette liberté de parole, qui est un des traits encore des cyniques, la parrhésie. » Cette franchise un peu dure, un peu lourde parfois, mais non, qui ne craint personne, qui ne craint rien. Même pas le maître du monde. Écoute, tu es Alexandre, mais moi je suis Diogène. Point. Nous sommes égaux.
On a effectivement un comportement cynique fabuleux. Qui aujourd'hui pourrait dire, dans la situation qui est la nôtre, que les faveurs de Mitterrand n'intéressent pas, alors que tout le monde se demande comment on peut être courtisan. Tout le monde multiplie les moyens de devenir courtisan et de rentrer à la cour. L'idée qu'un philosophe puisse aujourd'hui dire non, quand on vient me chercher, je refuse le pouvoir, ou alors si j'y allais, ce serait pour dire des choses qui ne vous conviendraient pas. Allons-y si vous voulez, mais je serai le bouffon de votre pouvoir, et il est préférable pour vous de ne pas m'inviter, c'est évidemment subversif, et ça reste d'actualité.
Et là se situe la vertu, justement.
Oui, parce que ce serait la résistance, au sens large du terme, l'idée qu'un philosophe, ce serait d'abord un résistant et pas un collaborateur. L'idée que ce soit un rebelle et pas du tout quelqu'un avec lequel on puisse fabriquer les pouvoirs, construire les pouvoirs ou durcir les pouvoirs dans ce qu'ils sont. On a vu que la plupart du temps, tous les philosophes sont allés à la soupe et que de Heidegger et le nazisme, même des contre-pouvoirs qui fonctionnent comme des pouvoirs. Je songe à Sartre qui a peut-être refusé d'encenser le gaullisme, mais qui n'a cessé d'encenser les régimes bien pires à l'Est, à Cuba, etc. Enfin, tous les philosophes ont le fantasme d'un pouvoir où on les écouterait enfin, y compris Michel Foucault, pour lequel j'ai de la sympathie et qui avait fini par dire sur l'Iran des choses étonnantes, enfin l'idée qu'on puisse respiritualiser un siècle avec l'islam et lui donner une forme socialement acceptable et métaphysiquement souhaitable, c'est un petit peu dangereux. Je crois qu'il faut se méfier de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient gaullistes ou mitterrandiens, qu'ils soient pouvoir du Coran ou du petit livre rouge, qu'ils soient pouvoir du Reich ou de n'importe qui d'autre. Et je crois que le travail du philosophe, le travail d'un cynique aujourd'hui qui voudrait repenser et réactualiser la subversion, ce serait la promotion de la résistance.
Il s'étonnait de ce que les esclaves, témoins de la gloutonnerie de leur maître, ne faisaient pas main basse sur quelques bons morceaux. Il admirait des gens qui, sur le point de se marier, ne se mariaient pas. Ceux qui, prêts à partir en voyage, ne partaient pas. Les gens qui s'apprêtaient à se lancer en politique et ne s'y lançaient pas. Ceux qui avaient en vue d'élever des enfants et n'en faisaient rien. Et ceux, enfin, qui se disposaient à vivre dans la compagnie des puissants et ne s'en approchaient point.
Un cynique ne travaille pas ?
À l'époque, oui. Aujourd'hui, il est difficile d'être Diogène. Un cynique, mais un grec, à l'époque, ne travaille pas. L'idée qu'on puisse travailler, c'est épouvantable. La société est divisée. Vous avez les esclaves d'un côté, les citoyens de l'autre. Il ne viendrait pas à l'idée d'un citoyen d'aller travailler. Le chômage n'est pas une honte pour le grec. Le chômage n'existe pas, mais l'idée qu'il puisse être honteux de ne pas travailler, de ne pas être un animal destiné au travail, ça n'est pas pensable chez les Grecs. Le loisir est la plus haute des vertus. Donc, travailler, c'est la pire des choses. Chez nous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, le loisir, on tâche de l'apprivoiser un petit peu, on lui donne une forme socialement acceptable, on le bricole entre pastis, caravane, pêche, etc. Mais on lui donne une forme socialement acceptable, mais ça n'est pas le but de l'existence. Ça restait le but de l'existence chez quelques aristocrates qui s'étaient donné le malheur de naître et qui dilapidaient la fortune de papa et maman. Mais l'idée qu'on puisse travailler et en faire une vertu, c'est devenu récent. Enfin, ça, c'est la bourgeoisie qui a fabriqué ces choses-là. Ce sont les comptoirs marchands, enfin, à partir du XVIIe siècle, fin de la Renaissance, jusqu'à la Révolution industrielle qui transforme le travailleur et jusqu'au marxisme qui finit par en faire une belle figure. Le marxisme est une grosse perversion en ce sens, en ce qu'il a promu le travailleur comme une belle figure exemplaire, le prolétaire comme quelque chose de fabuleux, de fantastique, d'accompli, d'achevé, alors qu'en fait c'est la forme la plus aliénée qui soit, puisque le travail reste tout de même la meilleure des polices. Donc je crois que le cynique à l'époque ne travaillait pas, mais comme tout grec qui se respecte, comme tout grec aristocrate et élitiste, c'est un personnage qui dispose de sa vie, qui sculpte sa propre vie et qui en fait son seul et unique travail.
Il y a une conscience très importante, première et dernière, de la solitude. Et en même temps, Diogène est quelqu'un qui se déclare citoyen du monde. Ça aussi, c'est quand même extrêmement moderne.
Moderne, oui, mais en même temps, c'est une idée qu'on retrouve déjà chez les premiers stoïciens. Enfin, dans le premier stoïcisme, on trouve cette idée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est partout chez lui, mais nulle part chez lui en même temps. Ça fonctionne comme ça, la définition du citoyen du monde. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine de, comment on pourrait dire, dans le domaine de la subversion, c'est-à-dire partout chez lui, peut-être dans n'importe quel endroit de l'Empire, et il se trouvera chez lui parce que, de toute façon, il ne reconnaîtra aucun chef, aucun supérieur, aucun commandement, rien qui le dépasse. Donc il est partout chez lui. Nulle part en même temps, dans la mesure où ça ne l'intéresse pas d'être plus grec que n'importe quel autre. La notion de barbare chez lui n'existe pas, le barbare étant celui qui ne parle pas la langue grecque pour les Grecs, puisqu'ils sont à l'origine de ce terme-là, celui qui parle un sabir ou quelque chose qu'on ne comprend pas. Diogène ne voit pas la chose à la dimension du grec. Le grec n'est pas du tout pour lui le modèle absolu. Il pense que le modèle absolu, c'est justement le philosophe cynique, et qu'à partir de ce moment-là, peu importe les conditions, qu'on peut être esclave, qu'on peut être citoyen, qu'on peut être d'ici ou d'ailleurs, et que tout est réservé à qui voudra adopter le comportement de l'école.
Voyant quelqu'un se purifier par des aspersions rituelles, Diogène lui dit: « Malheureux, ignores-tu une chose? Pas plus que de tes fautes de grammaire, ce n'est pas en t'aspergeant que tu vas te débarrasser de tes fautes de conduite. Il reprochait aux hommes leur façon de prier. Tout ce qu'ils demandent, affirmait-il, c'est ce qui leur semble bon et non ce qui est vraiment bon. Aux gens terrifiés par leurs rêves, il avait l'habitude de dire « Vous ne prêtez aucune attention à ce que vous faites en état de veille, mais vous examinez avec soin les fantaisies qui vous viennent en dormant. »
Alors, il ne s'agit pas d'une façon de vivre sécurisante. Vous l'avez
pas
dit, par rapport à l'exil, par rapport à la remise
pas
en question perpétuelle, par rapport, c'est ce thème du grand voyage de la vie.
Mm-hmm.
Donc, Diogène nous refuse, enfin, nous met en garde contre toute sécurité, qu'elle soit en effet politique, ce soit la sécurité, ou s'il faire valoir de l'ambition, du pouvoir, de la richesse. Mais on peut dire aussi qu'il nous enlève la dernière sécurité qui serait la croyance en un monde futur. C'est quand même le cynisme et quand même une pensée païenne, une pensée sans transcendance. C'est un matérialisme aussi.
Mmh. Disons qu'il reste, la plupart d'entre eux restent agnostiques, je dirais. Pour eux autres, ils sont plutôt près du scepticisme, fondé d'ailleurs à la même époque par Pyrrhon d'Élis, alors contemporain de Platon, de Diogène. Là aussi, on trouve un contestataire. Pyrrhon, qui est le fondateur de cette école sceptique, la seule école de scepticisme qui a jamais existé, une véritable école de pensée qui s'est développée, en fait, c'est les successeurs de Platon qui en feront le bonheur. Bon, mais Pyrrhon était tellement, je dirais, sincère dans son scepticisme qu'il n'a jamais rien écrit. Il a dit, écoutez, puisque je ne suis sûr de rien, aussi bien ne rien dire. Il a vécu, point. Bon, alors il a rendu témoignage comme ça. Alors donc, les cyniques, côté religion, côté outre-tombe, ne se prononcent pas plus que Protagoras, le sophiste, pas plus que Pyrrhon, pas plus que les sceptiques. Sans même se prononcer, ils iront encore plus loin que ça. Ils vont d'abord, évidemment, contester tout le côté ridicule de la religion établie, reçue de tout le monde. Alors, la superstition, bon... C'est le fameux Ennomaüs qui a vécu alors à notre époque, donc au deuxième siècle, et puis qui a tout un écrit justement sur les oracles de Delphes. Alors il les met en pièces un après l'autre. Il s'en moque royalement, évidemment, tous les oracles célèbres, bon, Édipe et le reste. Bon, alors les cyniques donc côté survie, côté reste sceptique, reste agnostique. Très critique au fond, en indiquant le danger qu'il y a de s'en faire, une assurance trop facile. Alors pour eux autres, s'il y a une religion, alors ça devrait être, comme tout le reste, une religion intérieure, une attitude honnête et juste vis-à-vis la réalité.
Le bâton, la besace, le manteau doublé, voilà le très léger bagage de l'existence du sage Diogène. J'apporte tout au passeur, car je n'ai rien laissé sur terre. Allons, brave chien Cerbère, accueille avec joie le chien que je suis.
Pour les cyniques, il n'y a pas de providence à l'œuvre dans le monde, il n'y a pas de divinité, mais j'hésiterais beaucoup à en faire des athées. Il me semble que ce sont plutôt des agnostiques, et en ce sens, disons, il y a là une influence socratique. Les cyniques s'occupent de l'homme. Il ne s'occupe pas de ce qui dépasse l'homme, tout simplement parce que on ne sait rien. Alors, c'est tout de même une philosophie de la raison. Et Diogène, quand on lui demandait justement s'il croyait en la divinité, ben, il disait qu'il n'était pas monté au ciel. Il ne savait pas. Bon, donc, à mon avis, ce sont plutôt des agnostiques. Et il y a dans cet agnosticisme, je dirais, une grandeur. Enfin, pour moi, c'est une des grandeurs du cynisme. C'est-à-dire que l'homme se trouve dans un univers dépourvu de rationalité, puisqu'il n'y a pas de divinité, pas de transcendance, et il se trouve seul, contraint, je dirais, à trouver lui-même la formule de son propre bonheur. Et moi, je dois dire que c'est l'un des aspects du cynisme qui m'émerveille le plus, quelles que soient les positions religieuses de chacun. Ce n'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que l'homme, face à la fortune, puisque dans l'Antiquité, on parlait de la fortune, qui lui envoie, alors à l'époque c'était l'exil, c'était, on pouvait être pris par les pirates, du jour au lendemain, donc on pouvait se retrouver complètement démunis, face au destin qui, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, menaçait de maladie, menaçait de mort, eh bien le cynique a décidé, par un effort de volonté, je dirais, que je trouve grand, a décidé d'une part d'assumer sa solitude et d'autre part de transformer cette vie que l'homme a tendance à trouver bien minable, bien misérable, à la transformer en une fête, disait les cyniques. Alors bien sûr, on peut trouver que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de prétendre finalement qu'on va transformer sa pauvre petite vie en une fête, mais en même temps, je crois que le cynique y est parvenu. C'est-à-dire qu'il a réussi, par la force du poignet, à s'astreindre tous les jours à des exercices ascétiques qui lui permettaient, le jour où l'exil, le jour où la maladie le frappait, eh bien, de dire « néanmoins, je suis heureux ». Alors, c'était peut-être une illusion, mais Diogène nous l'a dit. « Je suis heureux », je crois qu'il faut le croire. Alors, c'est un bonheur qu'on peut trouver un petit peu réducteur, bien entendu, parce que c'est un bonheur qui implique qu'on se débarrasse de tous les engagements sociaux. Et je crois qu'aujourd'hui, ça nous choque. C'est-à-dire, Diogène disait, n'ayez pas d'enfants. Vous allez être obligés de les langer, de leur donner à manger. Vous allez d'une part perdre de votre temps et surtout, vous allez courir le risque d'avoir mal le jour où votre enfant sera malade. Le risque de connaître justement la douleur qui fait mal. Alors, n'ayez pas d'enfants, ne vous engagez pas politiquement. Je crois que le message diogénien avait beaucoup de sens. Diogène esclave était heureux. Diogène pris par les pirates, alors que tous les autres se morfondaient et ne mangeaient rien, mangeaient tranquillement son bout de poisson, je ne sais quoi, en disant, mais qu'importe, la liberté est à l'intérieur. Et quoi qu'on fasse, on ne pourra jamais m'en priver. Et ce message de liberté, je crois que c'est le grand message du cynisme. Il nous montre que face à toutes les contraintes, que ce soit des contraintes sociales, la contrainte de l'argent, la contrainte de l'État, la contrainte de notre entourage, eh bien, face à toutes ces contraintes, face à tous les conformismes de la vie sociale, face à tous les compromis que nous sommes amenés tous les jours à plus ou moins à adopter, Diogène nous dit la liberté est souveraine, apprenez à la restaurer en vous, apprenez à la vivre.
On ne peut pas dire que ce soit une philosophie désespérée, c'est même une philosophie jubilatoire, mais c'est une philosophie quand même très orgueilleuse.
Oui, il y a un matérialisme absolu, et comme tout matérialisme qui se respecte, il y a du désespoir. Il y a du désespoir parce qu'en dehors de la matière et des modifications qui sont les siennes, pour le dire dans des formulations un peu spinozistes, il n'y a rien. Donc la vie, c'est une certaine conformation de la matière, la mort, c'est une autre conformation de la matière, reste une matière, modifiée autrement, bricolée différemment, on pourra dire, dans des termes un peu moins spinozistes. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir que la vie, c'est quelque chose qui passe, c'est quelque chose qui prend une forme incarnée, mais inscrite dans le temps. Cette conscience-là doit permettre une métaphysique conséquente, c'est-à-dire une pratique jubilatoire de l'existence. Donc il y a un matérialisme à l'origine, une conception des choses qui suppose que nous ne sommes qu'atomes, que matière, que flux destiné à un organisme qui lui est destiné à disparaître, et que de l'autre côté, il faut faire avec ces choses-là le temps d'une existence et faire de telle sorte qu'on puisse produire le maximum de jubilation dans un minimum de temps.
Je suis charmé par la répartie de Diogène qui, voyant son hôte à Sparte dépenser un zèle particulier à préparer une fête, lui dit « Un homme de bien ne considère-t-il pas chaque jour comme une fête ?» Plutarque.
Quels sont les descendants, si on peut dire, de Diogène ?
Il y en a eu partout dans l'histoire. Je crois qu'on pourrait même faire une histoire parallèle à l'histoire officielle. Et à chaque fois qu'on nous parle de Platon, parler de Diogène. Mais quand on nous parle des pères de l'Église, parler des gnostiques licencieux. Quand on nous parle de saint Thomas d'Aquin, parler des frères et sœurs du libre-esprit. Quand on nous parle de Descartes, du jansénisme, de Bossuet, etc., parler du courant libertin. Et quand on nous parle de Rousseau, ce sinistre Rousseau, ou Voltaire, Montesquieu, parler plutôt de Diderot, Lamétrie ou Sade, au XIXe siècle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a un Fourier contre un Marx. Et au XXe siècle, il y a des mouvements, des lieux dans lesquels s'exprime cette subversion. On peut penser à Marcuse, par exemple, aux situationnistes, peut-être plus présentement, des gens qui auront manifesté dans des comportements de rue, dans des détournements de sens, dans des provocations, dans des gestes ou dans des signes, comme les surréalistes aussi en leur temps, comme le dadaïsme, comme d'une certaine manière l'esthétique contemporaine, une façon de pratiquer l'art contemporain aujourd'hui qui vise la subversion, qui vise la destruction des idées reçues. Et j'ai toujours pensé que l'institution avait fort intérêt à nous présenter une ligne qui est celle qui va de Platon à Sartre, par exemple, et qu'elle avait plutôt intérêt à se taire sur la ligne qui irait de Diogène au situationniste, en passant par tous ceux qu'on a cités. Et tous ces gens-là, comme par hasard, se retrouvent absents des bibliothèques, absents des librairies, absents des reconnaissances universitaires ou autres. On n'enseigne pas Diogène à l'université, on n'enseigne pas l'huilier des barreaux ou ce genre d'individus, enfin les libertins érudits du XVIIe à l'université. On n'enseigne pas non plus les Carpocrates ou quelques autres, ou les gnostiques licencieux à l'université. Donc cette ligne-là, elle existe, elle est toujours présente, elle est impressionniste plutôt aussi, parce que ce sont des figures, des singularités, peut-être moins des mouvements que des personnages qui sont capables de promouvoir des attitudes cyniques, et ces attitudes-là, on les retrouve aujourd'hui, peut-être chez des comiques, chez des gens qui pratiquent la subversion, chez peut-être des individualités qui ne sont pas forcément des individualités de formation philosophique, mais qui pratiquent une philosophie dans un comportement concret.
Voyant un sceau en train d'accorder un instrument, il s'écria « Honte à toi qui sais ajuster des sons au bois, mais ne peux harmoniser ton âme à la vie. » Un ami, demandait-on à Diogène. Une seule âme reposant en deux corps.
Montaigne aimait beaucoup Diogène. Enfin, je crois que ça se sent quand on lit les essais. D'abord, Diogène arrive très souvent sous sa plume. Aussitôt, il fait référence à lui quand il veut manifester l'indépendance face aux puissants, la liberté, etc. Alors, donc, il y a eu Montaigne, il y a eu Diderot. Je crois aussi que dans les ordres monastiques, il y a eu aussi, je crois, une influence du cynisme, parce que cette façon de se priver de toute possession, de revenir à un état le plus minimal, enfin un état de minimum vital, je crois qu'il y a eu aussi donc cette influence sur les ordres monastiques. D'ailleurs, j'aurais dû dire avant qu'il y a une influence du cynisme sur le christianisme dans l'Antiquité elle-même. Ça, je crois que maintenant c'est bien établi. D'ailleurs, on sait qu'il y a eu des cyniques chrétiens et des chrétiens cyniques. Enfin, les relations entre les deux mouvements n'étaient pas évidentes. C'est-à-dire que parfois, il y a vraiment eu des oppositions très fortes. Mais on a au moins deux noms de cyniques chrétiens. L'un, c'était Peregrinus Proteus, dont nous parle Lucien, et l'autre, c'était Maximéron, qui était l'ami de Grégoire de Nazianze. Enfin, il est devenu ensuite son ennemi parce que tous les deux convoitaient le même siège épiscopal de Constantinople. Mais enfin, passons sur les détails. Mais tout ça pour dire que entre le christianisme et le cynisme, je crois qu'il y a des affinités parce que tous deux s'adressent non pas à une élite, et ça je crois que c'est très important dans le cynisme, comme d'ailleurs dans le christianisme, on parle à chacun, quel que soit son rang, quelle que soit sa classe, quelles que soient ses dispositions intellectuelles, ses capacités, etc., tout simplement parce que le message cynique, c'est un message de bonheur, donc chaque homme a le droit d'être heureux, et le message chrétien, le Christ estimait qu'il était venu pour tous les hommes. Donc on s'adressait au même public. On adressait également le même message de pauvreté dans les deux cas, et c'est pour cela qu'il y a eu un moment où les chemins se sont croisés. Et donc ce n'est pas étonnant que dans les ordres monastiques, il y a eu aussi une influence du cynisme.
On demandait à Diogène, quels sont ceux qui vivent en paix ? Ceux-là, dit-il, dont la conscience n'est chargée d'aucune faute.
Thank you.
Âgé de près de 90 ans, dit-on, il parvint au terme de sa vie. Les versions de sa mort sont cependant bien différentes. D'après les uns, il fut saisi de coliques et mourut ainsi après avoir dévoré un poulpe tout cru. D'autres prétendent qu'il retint volontairement sa respiration. Une autre version rapporte que, voulant partager un poulpe avec des chiens, il fut à ce point mordu au tendon du pied qu'il en mourut. Ses amis croient toujours cependant à la tradition de la respiration retenue. Diogène se trouvait en effet à passer son temps au Cranéion, le gymnase situé aux portes de Corinthe. Selon leur habitude, ses amis vinrent le voir et ils le trouvèrent enveloppé dans son manteau, ce qui leur fit croire qu'il dormait. Mais il n'était pas ordinairement très enclin au sommeil. Ils déployèrent donc son manteau et s'aperçurent qu'il était inanimé. Ils interprétèrent alors ce geste comme un acte volontaire en vue d'échapper définitivement à la vie. Diogène Laërce.
Qu'est-ce qu'il peut nous apporter encore aujourd'hui par sa vie? Parce qu'en effet, il fait partie des rares philosophes qui mettent en accord leur pensée ou leurs principes et leur façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'il a pu ouvrir comme chemin?
On pourrait résumer, en fait, dans une comparaison avec Platon et Épicure. Je dirais que Diogène se situe quasiment au-delà de ces deux-là. Platon, qui a comme idéal politique et puis alors idéal moral, l'intelligence au-dessus de tout. Mais alors, on s'aperçoit que c'est réservé plus ou moins pour une élite. Parce que Platon va le reconnaître, c'est pas vrai que tout le monde est égal au point de vue intelligence. On ne naît pas égaux en capacité intellectuelle. Alors donc, le pouvoir politique doit appartenir à un certain nombre, le bonheur va appartenir à un certain nombre, le bonheur vraiment parfait, les autres, ben, ils feront bien ce qu'ils pourront. Épicure va limiter ça davantage, il veut répondre, lui, à une question, parce que les gens sont maintenant déboussolés, Alexandre est mort, la liberté ou la citoyenneté, maintenant, c'est l'affaire de tous les citoyens grecs et autres, même ceux qu'on appelait barbares. Alors les gens sont déboussolés, Épicure et les stoïciens auront fait la même chose, cherchent à répondre et à donner une recette de bonheur. Apparemment, c'est pour tout le monde. En réalité, on s'aperçoit que c'est pour les gens qui sont libres, socialement libres. Donc les esclaves ou les serviteurs n'ont pas de part à cela. Pourquoi? Parce que son idéal n'est pas ce qu'on pense. L'épicurisme n'est pas être épicurien. C'est vraiment un idéal difficile, c'est-à-dire que c'est fondé sur la recherche de mes plaisirs, bien sûr, pas les plaisirs de tout le monde, mais mes vrais plaisirs. Donc, ça suppose une analyse de tout ce qui est, ce que ma nature indique comme étant agréable, et alors l'élimination de ce qui n'est pas un vrai plaisir. Et alors, on arrive à la fin, c'est un véritable monachisme, au fond. L'épicurisme, c'est celui qui se contente d'un verre d'eau, d'un morceau de pain et de quelques amis qui peuvent l'aider à acquérir ce verre d'eau. Alors, pour lui, la société, c'est le biais par lequel on peut arriver à se procurer ce bonheur. C'est une société de gens qui sont capables de faire cette analyse et qui, entre eux, établissent un contrat social. C'est pas Jean-Jacques Rousseau qui a inventé le contrat social, c'est vraiment Épicure. Bon, Diogène va plus loin que ça, vraiment. C'est un idéal pour tous. Selon lui, l'autonomie par la cèse qui conduit à cette apathie, à cette absence de trouble, c'est accessible à tout le monde. Et les moyens, ben mon Dieu, c'est la pauvreté, la véritable pauvreté, le dépouillement. Mais quel dépouillement? Encore là, pas le dépouillement des vêtements, forcément, c'était qu'une image pour lui. Pas le dépouillement de la nourriture, pas seulement le dépouillement du luxe, mais il invente le mot, et les cyniques le retiendront, c'est pas les moines qui l'ont inventé. La fugue, la fuite. C'est-à-dire ne jamais se faire avoir. Être soi, mais ne jamais se faire avoir par les autres, ou par un système, ou par des idées, des opinions. Alors fuir en ce sens-là, fuir en soi-même, être soi-même.
Finalement, le grand message que les cyniques nous ont apporté, on peut le condenser dans une formule, qui est de Diogène, il nous invite à habiller autrement la vie et, autre formule de Diogène, à l'ensauvager au maximum.
Ça reste tout de même, je crois, l'éloge de la subversion, le cynisme, aujourd'hui. Donc, il n'y a pas des philosophes cyniques, forcément. Je crois qu'il y a des attitudes cyniques qu'on peut aussi bien retrouver chez un des proches, à une époque, que chez un Gainsbourg brûlant un billet de 500 francs à la télévision, que chez un Maurice Clavel le désertant les plateaux de télévision quand il apprend qu'on a censuré sur une de ses émissions. Ça peut être, ce cynisme-là, ça peut être... un Deleuze qui se refuse à passer à la télévision parce qu'il considère qu'elle est perverse, quoi qu'elle produise comme type d'image. Enfin, les comportements sont multiples. Ça peut être un ministre qui démissionne, encore que pour arriver ministre, il faut avoir été un spécialiste en cynisme vulgaire. Mais on peut toujours se rattraper un jour. Donc, on fait acte de cynisme philosophique quand on démissionne pour montrer qu'on a des principes, qu'on y tient et que les principes sont solides et que l'éthique de conviction est supérieure à l'éthique de responsabilité, comme on le dit maintenant joliment, pour justifier tous les reniements et toutes les... C'est un gros mot qui me vient à l'esprit, donc je vais l'éviter, mais enfin, tous les reniements possibles et imaginables de notre temps. Donc, on peut être cynique aujourd'hui. Il faut aller outre, évidemment, les questions de besaces, de bâtons, de chiens et de lanternes. Mais il y a à réinventer un cynisme qui permet aujourd'hui d'être subversif, c'est-à-dire de se refuser les pouvoirs, de se refuser de reconnaître les institutions, de se refuser d'aller dans le sens du vent, et puis de tenir aux idées qui sont les nôtres, parfois d'être à contre-courant, de faire l'éloge de vertus qui ne sont plus entendues comme telles, de penser qu'aujourd'hui on peut parler d'honneur sans pour autant être ridicule, qu'on peut recourir à l'amitié, qu'on peut avoir le sens de la parole donnée, qu'on peut pratiquer ce genre de choses sans être un personnage hors du temps.
On lui demandait ce que la terre portait de plus lourd. Les gens sans éducation, répondit-il.
Diogène ou la subversion, une émission de Jacqueline Kellen. À un mécréant qui lui reprochait sa pauvreté, Diogène répondait « Je n'ai jamais vu personne être perverti par la pauvreté, mais par le mal, j'en ai vu beaucoup. » Avec Marie-Odile Goulet-Cazé, chercheur au CNRS, Michel Onfray, philosophe, Léonce Paquette, de la chaire de philosophie ancienne de l'Université d'Ottawa. En plein jour, lampe allumée en main, il se promenait ça et là en disant « Je cherche un homme ». Texte lu par Francine Olivier, Nathaniel Esther, Christophe Lemay.